mouvement migratoire. Et cet enfant va être fragilisé en dépit de sa réactivité d'enfant capable de, pour son développement, pouvoir s'intéresser à plein de choses de son univers environnemental. Alors, je vais vous parler d'abord quelques points pour indiquer vers quoi je vais. Je vais parler d'abord des déstabilisations provoquées par l'exil, et puis en quoi une famille, chacun des membres de la famille est malmené dans une telle aventure. Je proposerai, repérerai quelques facteurs, tout de même aussi, qui favorisent l'adaptation donc, familiale. Et nous verrons aussi, j'insisterai particulièrement sur l'importance des liens intrafamiliaux. Alors nous aborderons, à propos de liens intrafamiliaux, de choses qui se passent dans la famille, nous aborderons l'importance, l'intérêt de la langue, des langues bien sûr, de la langue, mais aussi d'autres traits culturels concernant l'enfance et qui font contraste avec nos habitudes. On s'arrêtera aussi, je proposais qu'on s'arrête aussi sur la fragilité des enfants qui est en lien avec la fragilité des parents, et je mentionnerai la question adolescente. Et ensuite, je parlerai de la situation, de la place des accompagnants, je vais désigner ainsi, toutes ces personnes qui, pour des raisons donc, professionnelles précises ou par engagement personnel, accueillent et essayent de apporter aide et d'indiquer un certain chemin donc, aux personnes migrantes, familles, enfants. Et je parlerai donc aussi de tuteurs de résilience à propos de ces personnes. Alors, d'abord souligner le fait que la migration, toute migration, est une aventure, cette aventure est portée à son paroxysme dans les situations donc, des réfugiés, qui ont fui leur pays pour échapper à l'anéantissement. Mais dans toute migration, me semble-t-il, il y a un dénominateur commun à tout exil, quelles qu'en soient les causes, que ce soit des causes économiques, politiques, etc. Dans toutes les situations, le pays initial, pays d'où viennent les personnes, ce pays initial, en fait, n'a pas donné protection, n'a pas fourni les conditions de vie suffisantes à la personne. Et donc le pays a failli, on quitte son pays qui ne nous a pas soutenu, qui ne nous a pas aidé, qui vous a en quelque sorte trahi. Et on quitte cela pour se diriger vers une terre d'espoir, avec beaucoup, donc bien évidemment, d'incertitudes et d'horizons obscurs. Alors, dans la suite de mon propos, je ne parlerai pas, je vais le préciser, je ne parlerai pas des migrations choisies du style, choisies pour un style de vie. Je veux dire par là, je suis architecte à Buenos Aires et je vais à Berlin pour, je m'installe pour développer mon savoir-faire, etc., expertise maintenant. Quoique là aussi, il y a toute une dynamique psychologique qui est intéressante et importante, qui n'est pas toujours parfaitement tranquille, non plus. Pas croire que certaines personnes, par une migration choisie, vivent la migration de manière paisible. Mais bon, je tiendrai cela de côté, ou on pourra en reparler si vous souhaitez. Alors, ce qui est important dans toute migration, dénominateur commun, c'est qu'il y a deux temps. Le premier temps, c'est, évidemment, comme je l'avais dit, c'est quitter, c'est abandonner. Quand on migre, on quitte, on abandonne le lieu où on est né, où on a grandi. Et on laisse donc tout un environnement, un univers qui est familier, qui est connu. Toutes sortes de petites choses qui font le quotidien et auxquelles on ne pense même pas. Et donc on s'en coupe, on perd ses ancrages affectifs aussi, sensitifs, relationnels, symboliques, qui, tout cela qui a contribué à la construction psychique du sujet. Avec pour idée initiale dans notre raisonnement, nous, de cliniciens interculturels, c'est que psychisme et culture sont co-émergents. Alors, donc tout cela, la personne donc le quitte, l'abandonne, ce qui va induire des effets de malaise, de mal-être, voire du ressentiment et de la culpabilité aussi. Se retourner en culpabilité, ils ne m'ont pas retenu, je ne suis pas restée, mais je n'ai pas peut-être su faire, enfin, etc. Donc il y a les deux mouvements, hein, c'est simultanément. Donc des réactions aussi de souffrance, des réactions jusqu'à la dépression et autres types de souffrance psychique. Et alors dans tous les cas, migration heureuse ou migration difficile, voire malheureuse dans certains cas, dans tous les cas, la nostalgie. La nostalgie, ce sentiment doux, amer, comme dit l'auteur. Alors donc, il y a ce premier temps, donc cette, je qualifierais d'arrachement, hein, même si c'est décidé, choisi, avec plein de guillemets, on choisit. Et puis, il y a concomitamment, hein, c'est très, très bref, très proche, il y a le fait de se confronter à l'inconnu, à des inconnus bien sûr, mais à l'inconnu, à des valeurs, à des normes, à des codes culturels différents de ceux qui ont été internalisés, hein, à la première culture. C'est aussi ressentir l'étrangeté de l'autre, mais aussi en retour l'étrangeté de soi pour l'autre. C'est rencontrer beaucoup de nouveaux visages, c'est découvrir de nouvelles règles qui régentent alors les liens de parenté, par exemple, les relations de genre, les formes de stratification sociale, mais aussi les nouvelles règles qui organisent le rapport au corps, au temps, à l'espace. Et là, on a aussi le migrant à toute l'immensité de domaines comme ça à rencontrer, à découvrir et à faire l'expérience délicate. Alors, ça portera aussi sur d'autres choses, on y reviendra sans doute, par exemple, découvrir à travers tout ça la façon de nommer un enfant. Hein. Comment, voilà. Mais aussi, tout cela, toutes ces règles, ces normes donc initiales qui viennent rencontrer d'autres normes, d'autres règles, tout cela est pénétré des croyances, des représentations sociales, mais aussi sacrées et religieuses, qui sont extrêmement importantes. Et puis aussi représentations sociales, collectives, bien sûr. Alors, il y a aussi autre chose qui est important dans la migration, parce que je parlais de s'arracher, quitter, et puis donc de se confronter, rencontrer. C'est aussi, pour dans la migration, dans toute migration, c'est aussi penser au retour. Mais là, je pense que je partirai sur d'autres chemins qui. Mais c'est quelque chose d'important qu'on a franchement très souvent. Tendance à oublier que toute personne qui migre pense au retour. Bon, on revient pas à l'envers, si vous le souvenez. Alors, à différents moments de sa vie, alors, la migration, les migrations, donc, sont d'une extrême diversité, évidemment, hein, vous savez, sur les pays, les cultures, les religions, tout ce qui est institutionnel dans les différentes organisations sociales, mais aussi ce qui rentre en ligne de compte dans la migration, outre ce pays, culture d'origine, il y a aussi l'âge auquel est avaient entrepris la migration. Les conditions de la migration, hein, si c'est en solitaire ou en groupe. Savoir aussi si c'est une migration individuelle ou avec le groupe familial, ou avec une partie du groupe familial. Enfin, voilà. Une autre condition qui induit une particularité de la migration, c'est la connaissance, non ? Donc de la langue, de la culture du pays vers lequel on va, si on sait où on va. Dans toute cette diversité, donc, il apparaît que les migrations sont éprouvantes, parfois malheureuses, mais aussi parfois heureuses. Hein, à perte de vue, bien sûr, aussi la satisfaction qui peut naître de la migration. Heureuse, parce qu'on relève dans nos approches cliniques interculturelles, de recherche interculturelle, que la migration peut constituer une belle opportunité d'affirmation subjective, d'autant plus quand on est issu d'une culture où l'individu doit s'effacer au profit du groupe, de la communauté. Donc il y a aussi là des ouvertures qui s'offrent aussi dans la migration. Alors, certes, il y a donc cette diversité sur laquelle j'insiste, qui est d'ordre collectif ou de l'ordre aussi subjectif, parce que c'est bien évidemment aussi ces expériences, les expériences de chacun qui vont être, particulières, bien évidemment, l'originalité de chaque histoire de vie, le fonctionnement psychique de chaque sujet, la dynamique familiale propre à chaque famille. Donc on est là aussi dans une extrême diversité, et ce qui fait que chaque personne migrante est singulière, de là la difficulté de parler des migrants, extrêmement délicat. Bon, on s'y essaye un peu, mais bon, c'est assez périlleux. Alors pour cela, il me semble qu'il est très important de toujours rester attentif à chacun des interlocuteurs que l'on a, qui vient d'ailleurs, donc, à ce que chacun dit, et à être attentif à ne pas enfermer la personne qui vient nous voir, qu'on rencontre, quoi, à ne pas l'enfermer dans nos propres a priori, dans des, en particulier, des attributions culturelles. On va revenir sur ce point-là un peu plus loin, mais c'est quelque chose de très très important dès le départ, être à l'écoute. Vous direz possible, je sais, mais attendez. Alors, à partir donc, là je voudrais vous parler justement de certains facteurs adaptatifs qui favorisent l'adaptation, à partir des travaux d'une collègue que nous fréquentons souvent, Vidor, qui est aussi clinicienne, systémicienne, interculturelle, et qui note 6 facteurs qui permettent de comprendre et de mieux accompagner donc, une famille migrante dans son adaptation. Alors, d'abord, on peut remarquer qu'il est important de repérer les motivations et les conditions du départ. Premier point, savoir si c'est un choix, si c'est une contrainte, si le migrant, la personne migrante a le sentiment d'avoir été lâché, poussé ou soutenu, ça change beaucoup de choses dans son parcours migratoire et dans ses motivations, on pourrait dire. Deuxième facteur, l'accueil en France, en l'occurrence, l'accueil. Les premiers contacts, s'ils sont apaisants ou à l'opposé, source d'insécurité, savoir s'ils sont soutenants, on peut dire, ou bien anxiogènes, inquisiteurs, c'est très important, les premières rencontres dans le pays élu. Ensuite, troisième facteur, la valeur actuelle des représentations culturelles du migrant. des représentations culturelles initiales. Donc, lorsque ces représentations culturelles peuvent être accueillies avec curiosité par l'autochtone du pays d'accueil, cela autorise le sujet à s'exprimer, à dire des choses de lui, à échanger. Et cela renforce le sentiment d'estime de soi pour cette personne. Ou bien, si ces représentations sont déniées, si aucune attention n'y est prêtée, alors à ce moment-là, le sujet, j'allais dire presque tout intérêt, il fera même tout à fait spontanément, intérêt à se taire. Et alors là, les non-dits risquent de s'accumuler et simultanément le repli sur soi s'accentue, hein, par un mécanisme de protection par rapport à l'impossibilité de livrer quelque chose de soi. Donc la question de ces représentations culturelles initiales, le migrant peut-il en dire quelque chose ici? Quatrième facteur qui contribue à l'adaptation favorable, c'est est-ce que dans le nouveau contexte de vie, il est autorisé, ou le migrant du coup va s'autoriser, à s'exprimer dans sa langue maternelle. Point très important. Cette possibilité, par rapport à un groupe familial migrant, cette possibilité de s'exprimer dans sa langue initiale, sa langue maternelle, peut contribue à étayer le rôle et la fonction parentale. Ne pas utiliser cette langue, ne pas pouvoir l'utiliser, ou avoir le sentiment que c'est interdit d'utiliser, ou que c'est malvenu, enfin, toutes sortes de mots, spolie les parents d'un savoir, et aussi, quelque part, d'une autorité qui passe par cette verbalisation, autorité vis-à-vis des enfants, bien sûr, qui passe par cette verbalisation, et aussi cette langue qui participe de la transmission générationnelle, hein, chose qui a été héritée, que les parents possèdent et qu'ils peuvent transmettre aux enfants. Donc, pouvoir parler cette langue semble tout à fait favorable. Cinquième facteur, l'étayage du groupe de compatriotes à l'arrivée d'un pays. Alors, retrouver du familier, support d'une réassurance au début, mais qui est aussi un espace de transmission, un échange de transmission, là où circulent les souvenirs, les nouvelles aussi. C'est extrêmement important et ça a une fonction narcissique très, très importante. Mais aussi dans le côté aussi sensoriel, hein, écouter la musicalité, retrouver les sons qui fournissent un sentiment de bien-être. Et ce besoin au départ qui semble favorable donc, au moment de l'accueil dans le pays nouveau peut perdurer longtemps, voire toujours. En fait, hein. Et je pense, là ces jours-ci, je rencontrais une dame irakienne kurde, musulmane, qui était venue en France il y a 30 ans, fuyant le régime de Saddam Hussein, qui avait obtenu très vite à l'époque la nationalité française et un emploi, et qui, elle parle parfaitement français maintenant, et qui nous disait à ces jours-ci donc, son intime plaisir, extrêmement sensible, plaisir, à écouter et à échanger en arabe irakien avec ses compatriotes, même chrétiens, parce que c'était dans une réunion religieuse catholique où ils se trouvaient. Alors, fréquemment, ce type d'attitude fait peur en France, hein, toujours l'idée du communautarisme. Mais si ce n'est que les Français à l'étranger, qui travaillent à l'étranger, qu'est-ce qu'ils font? Comme par hasard, bon. Seulement, bon. Alors, bon, on pourrait développer là-dessus, voilà. Mais c'est un point d'ancrage ville, Bujor, même, on dira, très bien adaptée, et qui éprouve le besoin de retrouver cela. Et un autre facteur, et puis le dernier, c'est le contact que cette famille nouvellement venue peut garder avec sa famille d'origine. Ça, c'est très important, contrairement à ce que croient un certain nombre de politiques. Ça permet de s'inscrire dans une continuité, dans une temporalité, et ça permet aussi d'inscrire son enfant, ou les enfants que l'on aura, même de loin, donc, dans des liens familiaux. Famille élargie, bien sûr. Et pour les parents, de s'assurer de relations réciproquement maintenues, de faire connaître et reconnaître sa descendance. Alors, bien sûr, à l'heure actuelle, Skype contribue beaucoup. Alors, soulignons, au passage, que les nouvelles technologies ont introduit quand même un très grand changement, je dirais même une révolution, un très très grand changement dans la teneur même des migrations. Pas des migrations du fin 19e siècle, même pas du 20e siècle. Ça a complètement changé avec Skype, avec les portables. Ça permet de rester en contact, de continuer d'entretenir des liens. Les liens antérieurs, on est nourri dans la migration de ces liens, ces rencontres. Du coup, je pense aussi à ces jeunes que j'ai rencontrés de façon, c'est pas tourné pour d'autres personnes d'autres origines, des jeunes de parents qui ont migré d'Afrique subsaharienne et qui achètent à leurs grands-parents des portables, leurs grands-parents restés au pays, bien sûr, et téléphones cellulaires pour faciliter la communication avec entre les grands-parents, les petits-enfants, et le reste de la famille, bien sûr. Donc, tout cela va favoriser ces facteurs que j'ai désignés là, vont favoriser un sentiment de sécurité dans la nouvelle vie et peuvent contribuer au désir de transmettre, de soutenir l'enfant et de construire un projet. Et l'important, à travers ce que je viens de dire, un point important, c'est que différents facteurs là, vont permettre de faire lien entre ces deux temps forts, le avant la migration, le avant et le après. Pouvoir trouver un lien, une cohérence entre tout cela. Et justement, on va voir que la problématique de la transmission, ce dont on hérite, ce que l'on transmet, va être éminemment importante en situation migratoire, même si c'est vrai, dans toute situation humaine. Bon. Alors.
Il est 9h, je crois.
Et alors, qu'adviennent-ils les enfants lorsqu'ils migrent? Donc, comme je disais, plus souvent entraînés dans le sillage parental. Alors, bien avoir à l'esprit que les enfants, alors qu'ils aient migré avec leurs parents, ou qu'ils soient nés ici, ils héritent de l'histoire parentale, de cette histoire migratoire parentale, et puis l'histoire parentale plus large, bien sûr, mais l'histoire migratoire. Et cette histoire parentale leur est transmise, finalement, même à l'insu des parents. Parce que assez souvent, les parents ne disent rien, quasiment rien, sur leur migration à leurs enfants, sur les causes du départ, sur les conditions dans lesquelles ils vivaient auparavant, s'il y a eu des choses douloureuses d'autant plus. Ils disent rien des épisodes conflictuels dans la culture première, et ils disent rien, pour certains d'entre eux, parfois jusqu'au mutisme, donc total silence. Et cette histoire parentale, donc, hérite l'enfant, peut être lourde à porter pour l'enfant, pour l'adolescent, ça va surgir peut-être encore plus même à l'adolescence. Et c'est ce qui sort de cette sombre histoire parentale, histoire occultée, ce sont ces non-dits qui obscurcissent finalement l'horizon des adultes, mais aussi des enfants. Et ceci. je me rappelle d'une situation, d'un entretien familial dans le cadre d'une consultation clinique interculturelle, où les parents, sur la demande du thérapeute, expliquent donc au thérapeute leur parcours migratoire depuis le pays d'origine jusqu'en France, et les enfants présents, c'était une rencontre familiale, donc les enfants présents manifestent leur ébahissement, leur admiration pour des parents qui ont fait une telle chose dont ils n'avaient jamais entendu parler. Alors, comment faire au mieux avec ces enfants migrants? Alors, il y a la question aussi dans recevoir les enfants, c'est recevoir les parents. Et il y a, dans cet accueil, dans ce moment préliminaire d'emblée, il y a la question de la confiance qui va se poser, la confiance qu'il est souhaitable d'instaurer pour qu'autre chose puisse se construire. Et pour que cette relation de confiance s'instaure, il me semble, mais je pense que plein d'autres personnes impliquées dans cette direction, vous pourrez peut-être parler de votre propre expérience tout à l'heure, pour que cette confiance s'instaure, il est aussi utile de ne pas omettre de s'impliquer, c'est-à-dire se présenter, dire qui on est, pourquoi on est là, quitte à livrer quelques aspects de soi. Offrir à celui qu'on rencontre des choses à penser, de ce qui se passe, à qui ils ont affaire. La situation est anxiogène quoi, pour ces personnes qui sont échouées là dans un parcours parfois compliqué. Et on leur demande de parler d'eux-mêmes, mais il est aussi important donc de se présenter et qu'ils aient des éléments sur qui vous êtes et qui on est face à eux. Une relation de confiance, une sorte d'alliance n'existera que dans cette sorte de réciprocité. Et quand je dis réciprocité, je ne dis pas symétrie. Attention. Alors, et ça, ce sera vrai par rapport aux adultes, à la famille, mais ce sera vrai aussi par rapport à des adolescents, par rapport à des enfants. Alors, il y a aussi autre chose, enfants migrants ou enfants de migrants. Alors, gardez toujours à l'esprit, même si ça semble d'évidence, mais le garder à l'esprit quand même, c'est que l'enfant, avant d'être migrant, avant d'être issu d'une autre culture, il est d'abord et avant tout un enfant. Et cet enfant, comme tout enfant, a un besoin impérieux, vital, de l'attention protectrice de ses parents ou d'un adulte. L'enfant est par excellence et par définition, immature, en construction, et donc le soutien et soutien affectif de l'adulte, la capacité de l'adulte de lui faire découvrir donc le monde par les petites choses du quotidien, environnantes, et à travers, grâce aux interactions, bien sûr, dans une atmosphère sécurisante, en s'adaptant à l'âge de l'enfant, une condition indispensable, sont nécessaires pour que l'enfant puisse grandir. Or, dans la réorganisation familiale qu'implique l'exil, dans cette réorganisation familiale, ces conditions-là risquent d'être profondément remises en question. Les parents sont déstabilisés, le couple, et encore, on va s'arrêter sur le mot couple, le couple est altéré, peut-être en difficulté, souvent. Face à face dans le couple, enfin, bon, il y a plein de choses aussi à développer là, qui n'est pas aisée, facile dans toute personne de nos culture, la nécessité d'une recomposition familiale avec une réorganisation des places et des fonctions dans la famille va obliger chacun à faire différemment avec l'autre. et du coup créer une certaine fragilité de la dynamique familiale, du groupe familial humain. Alors, dans ces conditions, le père, la mère vont-ils pouvoir continuer d'assumer une fonction d'étayage pour l'enfant? C'est bien là la difficulté. Alors, pour que l'enfant... parce que pour que l'enfant puisse grandir, hein, comment l'enfant peut-il grandir? Le souhaitable, c'est que les parents, le père, la mère, chacun, puissent garder cette capacité à protéger leur enfant, puissent garder cette capacité à faire famille, à ce qu'une parole rassurante puisse circuler dans le groupe familial. Mais tout dépend des potentialités psychiques de chacun, hein, donc potentialité psychique initiale, on pourrait dire, propre, la personnalité de chacun, fonctionnement psychique de chacun. Et puis aussi, tout dépend, dans certains cas, des conséquences du voyage migratoire traumatique, peut-être, hein, difficile, voire violent. Hein. Donc, c'est souhaitable, mais voilà. Alors, la réactivité adaptative de l'enfant va être étroitement dépendante de celle des parents. Et celle des parents, enfin, les deux parents, ou au moins un des parents. Et parce que l'attitude, les réactions des parents sont tout à fait déterminantes, puisque l'enfant réagit plus aux réactions parentales qu'aux événements. Et c'est la perte de cette réassurance et cette protection parentale qui va être la plus délétère pour l'enfant. Alors, ce qui fait qu'on constate, hein, globalement quand même, que l'enfant qui a migré, même avec ses parents, ou l'enfant qui est né donc, sur la terre d'accueil, l'enfant est vulnérable parce que ses parents eux-mêmes donc parviennent plus à faire face, sont fragilisés par les conditions de départ, par le voyage, par les déceptions parfois amères à l'arrivée, par les obstacles rencontrés, par les incompréhensions, par la solitude. Alors, on note que, en clinique interculturelle, on note que les bébés peuvent manifester des souffrances psychiques en raison des mères qui n'arrivent plus à faire face à la situation, et même plus des mères déprimées, des mères qui nous racontent, dans toutes les consultations, les mères qui racontent combien elles ont pleuré pendant des mois et des mois et des mois après leur arrivée en France, et qui, du coup, sont dans une sorte d'incapacité à présenter le monde environnant, à leur enfant de façon rassurante et plaisante. Un peu plus grand, les jeunes enfants rentrant dans les apprentissages scolaires peuvent donner des signes de troubles des apprentissages, troubles du comportement, dans le cadre de l'école, parce que ils vont être bien souvent placés dans des situations paradoxales. Pour le dire vite, l'enfant doit rester le même pour les parents, et il doit changer pour les parents, et l'école aussi, il doit changer. Il est pris dans ces injonctions qui sont impossibles à aménager, qui sont incohérentes de conciliables, tout à fait, merci. Alors pour les adolescents, les élaborations psychiques et relationnelles propres à cet âge de la vie sont compliquées parce que comment remettre en question des figures parentales quand ces figures parentales sont, je dirais, défaites, en grande difficulté. Dans leur position aussi d'adolescent, dans cette position délicate d'entre deux âges bien sûr, mais aussi accrue de cette position entre deux lieux, la famille, la société d'accueil, au remontée de l'entre-deux culturel, et cet âge de la vie va, à cet âge de la vie vont surgir un certain nombre de questions délicates, de conflits de loyauté importants, ou de positions contradictoires, de vouloir rentrer dans un certain nombre de valeurs et de vouloir respecter les valeurs parentales. Donc là encore, dans une situation paradoxale. Alors, par contre, si, si les, le couple parental reste suffisamment structuré, s'il y a possibilité, s'il y a dialogue, s'il y a partage au sein du couple, si des affects peuvent s'exprimer dans le groupe familial, si aussi donc les craintes, les ressentiments, enfin toutes sortes d'affects peuvent se manifester, mais aussi les désirs peuvent émerger, mais aussi par la même les projets. À ce moment-là, l'enfant va pouvoir investir son quotidien et découvrir, hein, au-delà de la famille, ce qu'il en est de son environnement nouveau. Par contre, donc, si les effrois passés demeurent, si la famille n'est pas protectrice, si les parents sont et restent donc durablement traumatisés, la pensée se fige et il va être impossible de raconter, de se raconter, d'échanger. La parole ne circulera pas dans le groupe familial et il sera difficile, voire impossible, de se projeter dans l'avenir, d'inventer et de pouvoir donc offrir à l'enfant des perspectives nouvelles qui soient heureuses, avec le sentiment d'envie d'aller voir ailleurs. Alors il arrive que, assez fréquemment finalement, il arrive que des parents soient en difficulté d'assumer leur propre projet migratoire, hein, être ici, et puis après, qu'est-ce que je fais, quel sens ça a, face aux obstacles, face aux difficultés, tout ça, contribuant à la difficulté donc, d'assumer un projet. Des parents qui ne parviennent pas à faire le deuil des choses passées, hein, l'investissement affectif antérieur, qui ne parviennent pas donc à accéder cognitivement parfois, mais aussi dans leurs investissements nouveaux au nouvel environnement, hein, au nouvel espace de vie. Parfois aussi avec la peur qu'ils ont, les parents, de trahir les figures premières d'attachement. Hein. Dans ces cas-là, les parents vont induire un sentiment de précarité et de mal-être chez les enfants. Et je me souviens des propos de deux jeunes filles d'une vingtaine d'années d'origine portugaise et d'origine portugaise quand elles avaient 20 ans. Et elles expliquaient, nous expliquaient que quand elles avaient 10 ans, alors que depuis des années, leurs parents leur disaient, de jeunes filles, des sœurs, excusez-moi, leurs parents leur disaient, depuis qu'ils étaient arrivés, hein, quelques années auparavant, ils leur disaient, ils leur répétaient chaque année, l'an prochain, on rentre au Portugal. Et puis bon, on a dépassé, l'an prochain, on rentre au Portugal. Jusqu'à leurs 10 ans, l'âge de 10 ans, où elles sont révoltées, où elles ont dit, on ne peut plus, soit on rentre cette année, soit on ne rentre plus. Et les parents, sidérés, les ont entendus, entendu ce qu'elles exprimeront plus tard comme étant une longue période de suspense, d'incertitude qu'elles soumettaient et contraignaient les parents. Et du coup, ces parents stupéfiés, n'ont plus répété chaque année l'an prochain en rentre en Portugal. Ce qui leur a permis, explique-t-elle plus tard, de permis, donc autoriser, les a autorisés à faire avec leur vie en France. Et pas cette chose comme ça, marquant cette incertitude parentale, à assumer leur propre projet migratoire. Alors, oui, je disais que je serais parlé un petit peu à Stéphanie Mousset, et que elle peut nous parler aussi d'un autre jeune homme nommé Bilal, qui montre combien il est parfois difficile de grandir dans un système familial pas toujours très clair, évidemment, en raison des parcours migratoires et des difficultés adaptatives des parents.
Merci. Donc oui, je voulais vous rapporter ici ma rencontre avec Bilal, qui est un jeune homme qui avait 18 ans quand je l'ai rencontré. Je l'avais reçu dans le cadre d'entretien dans le contexte de ma recherche en doctorat. Et donc en fait, à l'occasion de ces entretiens, j'étais revenue avec lui sur ce qu'il pouvait me présenter, m'expliquer de ce qu'il avait compris de l'histoire de ses parents et de ce qui les avait amenés à quitter l'Algérie pour la France alors que lui avait 11 ans et demi. Alors voici ce qu'il me disait. Ma mère, elle est venue la première en France, toute seule. Après, mon père, moi. J'étais petit. Après moi, mon frère, le plus grand, celui qui a fait l'armée. Après, l'autre frère, et puis la sœurette. La pauvre, elle a galéré, ils l'ont fait attendre. Nous, on a fait les papiers. En Algérie, vous savez, on a le droit de venir en France. Je suis en Algérie. Je m'en rappelle plus. Pourtant, j'ai grandi avec eux. Je viens de Mostaganem, c'est une ville. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. Je lui demande quel âge il avait quand il est venu en France. Il me dit 9 ans. Donc en réalité, il en avait 11 et demi. Je suis allée à l'école en Algérie. Après, je suis allée dans une classe pour apprendre le français. Mon cerveau était fragile, il retenait tout ce qui bouge. Quand on est parti, c'est ma mère qui a tout fait, la pauvre. Elle a commencé à faire sa place ici, et elle nous a fait venir. C'est elle qui a eu l'idée. Pendant ce temps, je suis restée seule avec mon père, ma sœurette et mes frères. Ma mère, elle m'a dit qu'ils avaient eu des menaces. Elle avait des sous là-bas. Il y a eu la guerre. Elle faisait des robes pour les mariages, des tenues avec des couleurs. Des robes pour les fêtes, ça marchait bien. On a reçu des menaces par des types qui tuent des gens. Soit tu leur donnes des sous, soit ils te tuent. Donc on est tous venus en France. Elle voulait vivre ici. Elle a vu que la France, c'était bien. Et mon père, il a dit, ramène le petit Bilal. Pendant 8 mois, on a été dans un foyer de famille. Mon père, ma mère et moi, tous les trois. C'était bien. Ils nous ont donné un appartement et après on a fait entrer tout le monde. Après on a fait les papiers. Et moi, je me suis inscrite à l'école. On a commencé à faire nos vies ici. Je suis ici, normal, je suis français. Enfin non, je ne suis pas vraiment français, j'ai pas la nationalité. Mais j'ai vécu ici pendant 7 ans, 7 ans et demi, plus. J'ai oublié. En tout cas, je me sens français. Ça fait bizarre de dire tout ça. J'avais jamais raconté ça avant, sauf à un vrai ami, une fois. Alors dans ce récit, je me dis, qu'est-ce qu'il nous livre finalement, Bilal, par rapport à son histoire de famille et la façon dont il la porte ? Moi, ce qui m'a frappé dans la rencontre et dans les entretiens, déjà, c'était le contraste entre deux valences qui semblaient coexister dans la relation sans véritablement s'articuler. Ces valences, c'est l'apparence qu'il avait de grand adolescent, bon, 18 ans, avec tenue, une manière de se présenter plutôt du registre des codes adolescents. En même temps, moi, il venait m'interpeller en permanence sur des petits bobos qu'il avait. Donc, il avait des égratignures sur le bras, sur les doigts. Et il me disait qu'il était tombé de vélo la veille. Et par cette attitude-là, moi, je sentais qu'il semblait rechercher le fait d'être au centre d'une attention privilégiée. Et ça me renvoyait au fait que, voilà, d'un côté, il y avait l'adolescent, et puis il y avait peut-être le petit enfant aussi qui me parlait. Et ce petit enfant, justement, il m'a semblé que c'était peut-être le petit Bilal qui me parlait, le petit Bilal que sa mère a fait venir d'Algérie. Parce que je remarque que quand il me raconte son histoire, en fait, il utilise un vocabulaire et des représentations qui me semblent assez enfantines lorsqu'il évoque tout ce passé. Comme si, en fait, il me donnait une mise en récit qui semblait être l'explication que lui, il avait reçue petit, qui s'était construite petit, bon, avec aussi des choses qu'il avait vécues, qu'il avait ressenties, sans que ça puisse être véritablement revisité après par une lecture plus critique, peut-être plus adolescente aussi, avec une autre façon de dire et penser les choses. Et puis, j'étais attentive au fait qu'il semblait aussi idéaliser ce temps où il vivait avec ses parents dans le foyer, un foyer d'accueil, où ils étaient tous les trois. Où du coup, voilà, là, il est dans une, semble être dans une forme un peu d'idéalisation de ce temps privilégié où il est le seul enfant, du coup, avec ses deux parents. Alors que bon, on peut s'imaginer quand même que leur vie, à ce moment-là, dans le foyer, ne représentait peut-être pas un quotidien très doux, pourtant. Et puis, ce qui m'a marqué dans ce récit, c'est aussi que Bilal, il éprouve quand même une certaine difficulté à ressentir le temps qui passe. Bon, il ne sait plus très bien à quel âge il est venu, enfin, il me dit 9 ans. Après, bon, quand il essaie de calculer la durée, il ne sait plus trop. Et puis, il me dit même un peu à un autre moment dans l'entretien, on ne dirait pas que j'ai 18 ans, on dirait que j'ai encore 16 ans. Et cette question-là du temps, moi, elle m'a semblé être restée un peu en suspens. Quand il me parle de son présent, il me dit qu'il est chez ses parents, il cherche du travail, et puis il me dit, bon, je sors, je fais du sport. Et en fait, moi, ce que je comprends au fur et à mesure, c'est qu'en fait, il entame des formations, mais il n'arrive pas en fait, à les tenir, à rester engagé sur quelques projets qu'on me propose. Quand il parle de son futur, ben, c'est compliqué aussi de le mettre en mots de manière engagée, et il n'utilise que des verbes à l'infinitif ou des tournures impersonnelles. Donc il me dit, ben, le futur, ce sera avoir une villa à la campagne, se marier, faire des enfants, être tranquille, travailler, avoir une voiture. Donc voilà, des propos qui sont comme ça, avec des verbes qui ne sont pas conjugués. Il y a du coup l'appropriation par lui-même de ce qu'il décrit là comme un rêve, elle n'est pas vraiment articulée. Donc du coup, voilà, moi ce qui me livre Bilal, c'est du coup ce sentiment de se situer dans un présent, un temps un peu suspendu, avec du coup le passé qui est présent, qui est encore celui du petit enfant, et puis un avenir là, qui plane, mais qui n'arrive pas à accrocher. Et donc cette mise en récit là, de l'histoire, certes elle lui permet en partie de prendre la parole, mais c'est la parole d'un petit enfant, le petit enfant qu'on a ramené. Et l'adolescent, lui, ben, semble avoir pour le coup des difficultés à trouver sa parole. Et moi, je relève que bon, les souvenirs, les représentations qu'il s'est construites de l'Algérie, elles sont quand même essentiellement rattachées à des événements violents. Et cette violence, elle se retrouve aussi, par ailleurs, dans sa vie familiale, bon, qu'il m'a décrit à d'autres moments de l'entretien, où son père, en fait, a été condamné pour des violences à l'égard de sa femme et puis aussi des enfants. Et du coup, bon, par rapport à ce qu'on disait des questions de besoin de sécurité, de protection de l'enfant pour à un moment donné pouvoir peut-être s'approprier aussi le fil de l'histoire et ce qui lui arrive, enfin, subjectiver, on pourrait dire. Mais là, Bilal me semblait voilà, montrer comment lui, du coup, il est resté coincé dans quelque chose du petit enfant voilà, qui a reçu des informations, des images, des choses violentes qu'il a pas pu dépasser et qui le bloquent du coup là dans son épanouissement, enfin dans son devenir aujourd'hui quoi. À un moment je vous raconte.
La difficulté de grandir.
D'épandir.
Et alors, non, mais Russie, donc je continue sur toujours cette question de la place des parents. Les structures, enfin les personnes, ces structures, accueillant les personnes, les familles migrantes, doivent être attentionnées, semble-t-il, attentionnées. Au fait de ne pas disqualifier les parents. Bien sûr qu'a priori on peut disqualifier dans cette intention-là, mais de se méfier de certaines de réactions qu'on peut avoir qui risqueraient de disqualifier les parents. Ne pas les isoler, hein, même si, par exemple, à l'école, de structure scolaire par exemple, même si les parents n'ont pas fait l'école, ne savent pas lire, ne savent pas écrire, trouver moyen à toujours garder donc cette place des parents à l'égard des enfants. Alors en plus, bon, il y a des migrations où les parents ont bien appris à lire et à écrire, mais parfois, en général dans une autre langue et parfois dans un autre alphabet. Mais ils ont su aussi. La question aussi va ressurgir, c'est la question de la langue, par exemple, puisque je soulignais le fait la nécessité de ne pas disqualifier les parents, entre autres, en particulier, donc, c'est de ne pas disqualifier aussi ce savoir dont sont portés les parents, un savoir spontané, si on peut dire, c'est-à-dire leur langue initiale. Que l'enfant ne ressente pas, qu'on ne lui dise pas évidemment, mais enfin, ne ressente pas que la langue parentale est une langue inutile, une langue secondaire, une langue qu'il vaut mieux passer sous silence, qu'il faut éviter, que c'est quelque chose de contre-productif, ça ne lui servira à rien, cette langue, etc. On sent que c'est une perspective très, très instrumentale. C'est une grave erreur, c'est enfermer l'enfant aussi dans un conflit de loyauté. Pourquoi prendre la langue seconde, puisqu'à ce moment-là, c'est abandonner les parents aussi. Hein. Et puis, c'est aussi dire aux enfants, vos parents ne sont pas porteurs de bonnes choses, hein, puisque cette langue est même négative, mais, voire mauvaise, puisqu'elle elle ne favorise pas votre réussite scolaire, par exemple. Et alors, il y a cette question des langues être très, très importante. La question, c'est à travers la langue, est reconnue aussi l'histoire personnelle de l'enfant. Le fait que l'enfant, et bien sûr l'élève, est à la maison, dans la famille, et que là, il y a cette manière de s'exprimer qui peut être différente. Et par ce refus de la langue première de l'enfant, cela va induire souvent des blocages cognitifs aussi chez l'enfant, l'apprentissage de la langue seconde. Alors, et puis aussi, peut-être à souligner, le fait que le sentiment de ne pas être reconnu en tant qu'enfant, en tant qu'enfant appartenant à un groupe familial, par l'institution, par l'école par exemple. Et du coup, je repensais aux travaux, aux livres de Annie Ernaux, qui vont sur un autre registre, puisque ce n'est pas un phénomène migratoire, mais c'est un rapport de classe, se trouve aussi à exprimer justement cette difficulté d'accéder à un autre univers de classe, et qui va, à travers ces récits, ces romans, si on peut dire, toujours transporter ce malaise social initial de différence de classe. Alors, lorsque l'institution ou les interlocuteurs de l'enfant soulignent cela, bien évidemment, ce ne sera pas très favorable. Alors, il y a aussi, donc, par rapport à la question de langue, souvent, la plupart du temps, les enfants apprennent très vite la langue seconde. C'est souvent une grande inquiétude des institutions, mais les enfants ne parlent pas, etc. etc. Mais si tout peut se passer dans de bonnes conditions, si en particulier la langue première n'est pas désignée comme la langue à supprimer, entre autres, hein, et bien l'enfant va pouvoir découvrir la langue seconde et l'apprendre donc assez rapidement. Et il va être donc souvent assez sollicité par la famille, par les représentants des institutions, l'école en particulier, par différents professionnels, pour faire la traduction. Et cela n'est pas toujours très favorable. Hein. C'est placer l'enfant dans une position délicate. C'est lui donner une place qui devrait être tenue, une place d'intermédiaire qui devrait être tenue par un adulte. Or, on lui demande d'occuper cette place, d'être le porte-parole de ses parents, d'être le porte-parole de l'institution, et même dans certaines situations, par exemple, situations médicales, de tenir un discours, de traduire des choses qui ne sont pas de son âge, qui ne sont pas adaptés à sa place d'enfant par rapport à une mère ou un père en difficulté médicale. Donc il y a un renversement des rôles à travers cette expérience qui s'opère. C'est ce qu'on appelle, donc, vous savez, la parentification des enfants. Et ces enfants, autant peuvent paraître bien adaptés intellectuellement, se débrouiller dans la langue française, se débrouiller scolairement, ce sont des enfants qui grandissent trop vite, poussent trop donc, dans une position adulte. Ce sont des enfants en apparence adaptés, mais qui peuvent, à travers différentes observations, qui manifestent donc sentiment d'insécurité, enfants insécures. En quelque sorte, ces enfants n'ont pas pu occuper la place insouciante de l'enfance. C'est quelque chose aussi d'extrêmement important en situation migratoire. Les enfants vont prendre en charge en quelque sorte la défaillance ou la difficulté parentale, le fait vont être donc en difficulté donc pour vivre leur enfance. Et à ce propos, donc Stéphanie relevait les remarques, le texte même d'une auteure, Sophie Marinopoulos, qui certes, elle parle de situation de guerre, mais qui souligne la nécessité pour l'enfant d'avoir sa place d'enfant, de pouvoir avoir cette insouciance de l'enfant, et voire plus de pouvoir jouer, la notion du jeu aussi.
Oui, Sophie Marinopoulos, elle est psychologue et psychanalyste. Et bon, là, elle a beaucoup écrit sur l'accompagnement des enfants, les accompagnements mère-enfant. Et là, je tombais sur un texte qu'elle avait produit au sujet du jeu, où elle faisait part en fait de son intervention auprès d'une ONG pour la création de ludothèques dans les pays en guerre. Et en fait, ça partait du fait que les bénévoles avaient remarqué que les enfants étaient soignés, nourris, mis à l'abri des bombes, donc je la cite, mais ils se déprimaient, ils semblaient fuir la réalité. Et ce qui leur manquait, c'était de pouvoir vivre. Et vivre pour un enfant, ça revient à jouer. Jouer ses peurs, jouer le monde pour le comprendre, engager de l'espoir, se projeter dans le futur, imaginer son avenir et apprendre. Et pour ces enfants vivant dans des pays de guerre, il leur fallait reprendre goût aux expériences ludiques et tout particulièrement au jeu de faire semblant, qui est une activité favorite des enfants, pour mettre leurs émotions à distance et se les représenter. Car quand l'enfant a repris contact avec son monde enfantin, qui est porteur de toutes ses expressions intimes et émotionnelles, il peut les symboliser dans de nouvelles activités ludiques telles que le dessin, l'écrit, les scénettes imaginaires. Et ça représente un moyen de sortir du traumatisme, donc d'un état de sidération dans lequel le sujet enfant est pris dans une situation émotionnelle qu'il ne peut pas dépasser. Et donc cet état, quand il est pris dans cette sidération, ça le laisse aux portes de sa propre vie affective, loin des apprentissages et dans l'incapacité de structurer sa pensée. Et du coup, je retrouvais ce texte parce que je me disais, c'est vrai que des fois, on peut se focaliser sur tout un tas de préoccupations qui sont incontournables du côté de l'accompagnement de ces familles. Et des fois, on oublie quand même que ces petits, ça reste des petits, et qu'ils ont, malgré parfois une apparence de maturité, quelle qu'en soit la forme, ce besoin fondamental de pouvoir jouer. Et en même temps que je dis ça, je me dis aussi, mais là encore, il convient d'être attentif à nos constructions culturelles autour du jeu, parce que bon, il ne s'agit pas après de faire des prescriptions peut-être auprès de parents, mais jouez, allez-y, jouez avec vos enfants, les papas, ce qui, peut ne pas du tout être entendu, reçu, compris, et aller peut-être à l'encontre de ce qui est construit comme étant un rôle parental, une fonction parentale. Donc là aussi, avec une ouverture interculturelle à créer.
Alors on va en parler aussi de ça un petit peu après. Je voulais revenir sur cette question de langue, même dans l'établissement, les établissements scolaires, excusez-moi. Et je pense à un travail entrepris par une psychologue bien connue qui, face aux difficultés d'apprentissage d'enfants turcs dans une commune près de Bordeaux, avait mis en place une organisation après les classes où elle demandait aux parents, père et mère turcs, donc, de venir à l'école et avec la présence donc des enfants, et elle proposait des jeux, avec des jeux de mots, des jeux de phrases, des plaisanteries, des tas de choses, pour passer d'une langue à l'autre. Et ces rencontres avaient été très salutaires. Elle marquait donc cette possibilité pour les enfants, cette autorisation et cette possibilité pour l'enfant de passer d'une langue à l'autre sans risque, sans être jugé, sans être mis en danger, la possibilité donc que deux langues peuvent cohabiter. Alors, il y a peut-être aussi une autre situation où on
jusqu'à,
parle
jusqu'à combien de jusqu'à combien de temps
du oui coup, jusqu'à quelle heure
oui parce que on se d'accord. Discipline peut-être un peu
on continue
un peu parce que peut-être ça va pas se remettre
un quart d'heure
c'est bon je vais tu entends maintenant ? Ouais. Non.
Alors, donc, cette situation donc, des enfants entre deux, entre la famille et l'école, et qui doit parvenir à faire un lien entre tout cela, ce qui n'est pas évident quand l'école n'entend rien de ce qui se passe dans la famille. Quand la famille, dans certains cas, ne sait pas ce qui se passe à l'école, ne comprend pas ce qui se passe à l'école. Alors, il peut y avoir des difficultés. Mais enfin, bon. Tu parlerais donc de Cédric, qui lui se trouve justement dans cette question de la langue, dans le cadre de l'apprentissage et de troisième langue aussi. Très bien. Ça, c'est un point intéressant aussi. Les gens sont bilingues, mais choisissent une troisième langue aussi pour s'exprimer.
Oui, Cédric, c'est un autre jeune homme que j'avais rencontré aussi dans le cadre de ma recherche, qui avait 17 ans et demi. Alors, il vit en France, sa mère est originaire de la région de Lviv. Son père, par contre, est né et a grandi au Laos. Donc, il a quitté son pays, son père, quand il avait 17 ans, pour fuir le régime communiste. Donc, Cédric est fils unique. Alors, quand il se présente à moi, Cédric, je note qu'il fait beaucoup jouer les contrastes. Enfin, il met en avant, en premier lieu, ce qui peut paraître négatif ou décourageant. Il me dit qu'il est froid, qu'il est feignant. Et puis, bon, progressivement, il amène des choses positives en me disant qu'il est aussi quelqu'un de passionné et que pour les choses qu'il aime, il y va à fond. Et il tient à me parler précisément des choses qu'il aime. Et alors, ce qu'il aime, c'est apprendre le japonais. Il me dit qu'il aime beaucoup le Japon, il étudie le japonais, c'est une grande passion pour lui. Il me dit j'aime lire, dessiner, ça me permet aussi de m'évader, de penser à autre chose. Et cet intérêt pour le Japon, il date de quelques années, et ça a commencé par les mangas, pour devenir, d'après ses mots, moins superflu, parce qu'il s'est pris de passion pour la langue. Et il s'est intéressé à la culture. Donc il apprend l'écrit, l'oral, avec un professeur, dans le cadre de cours particuliers que lui payent ses parents. À terme, il n'exclut pas l'idée de pouvoir un jour partir là-bas pour suivre ses études, mais il me dit quand même qu'il n'en a pas parlé à ses parents. Alors, ce que je perçois assez rapidement, c'est que Cédric il présente avec culpabilité sa capacité à s'investir uniquement dans ce qui lui plaît. Il me dit « En fait, j'ai l'impression de perdre mon temps, en fin de compte, parce que je fais des choses parfois qui servent à rien. Par exemple, des fois, je joue aux jeux vidéo. Et ça, justement, je me dis que je pourrais faire autre chose qui puisse me permettre d'évoluer un peu, apprendre des choses, lire par exemple. » Je pourrais passer mon temps libre aussi à apprendre le laotien, avec en plus le japonais, après le boulot. Et il me dit qu'il passe beaucoup de temps sur l'ordi. Alors en effet, Cédric il apprend à parler le japonais, mais il ne connaît pas la langue de sa famille paternelle, le laotien. Et cette langue, elle n'est pas parlée dans la famille. Il me dit Cédric qu'en fait son père, il n'a pas tenu à lui transmettre cette langue, de peur de compromettre son apprentissage du français. Par contre, d'après Cédric, sa mère, elle aurait aimé que son père lui transmette cette langue. Donc lui, Cédric n'utilise pas il ne parle pas le laotien, et le père de Cédric ne l'utilise pas à la maison, uniquement avec les amis et puis dans le cadre du travail. Du coup, Cédric il décrit un peu un rapport à cette langue comme si lui il en était exclu. Ce qui le dérange, il peut exprimer que quand ils étaient au Laos, il s'est senti mal à l'aise parce que son père il disait des choses sur lui, puis ben lui il n'y comprenait pas et ça le dérangeait quand même de ne pas trop savoir ce qu'il se racontait. Alors je lui fais remarquer que peut-être que son père préfère que les choses en restent là. Et il me dit oui, je pense, oui, mais je pense quand même que je parlerai cette langue quand j'essaierai vraiment de m'investir, surtout par rapport à la famille là-bas. Ce qui me dit qu'il voudrait pouvoir parler avec eux. Et là, il se fait la réflexion que quand même, le japonais, finalement, ça y est peut-être pour quelque chose aussi. Parce que là-bas, il y a aussi des cousins qui parlent japonais. Alors, Cédric, dans ce qu'il me témoigne de son rapport aux langues, je perçois qu'il semble vivre un rapport assez ambivalent à cette langue paternelle, sans véritablement pouvoir le nommer. C'est-à-dire qu'il décrit une certaine culpabilité à n'en avoir pas acquis la pratique. Là, il pourrait jouer aux jeux vidéo quand même, il pourrait faire ça. Mais aussi une frustration à ne pas y avoir pu s'y confronter, à être autorisé à s'approprier. Ça, culpabilité, frustration, je le retrouve quand il me parle un peu de l'histoire de son père et puis de son rapport à la famille au Laos. Sur son père, il me dit « Bon, mon père, il a quitté son pays quand il y avait le communisme, à l'âge de 17 ans. » Je pense que son parcours, quand même, il est assez difficile. D'ailleurs, moi, je pense que j'en ai pas assez conscience de tout ça. Moi, je suis quelqu'un de vachement gâté. Je pourrais me rendre compte un peu plus, comment dire, qu'on n'est pas si mal. On n'est pas si mal que ça comparé à ce qu'il a pu vivre. Voilà. Il n'en dit pas plus. Il me parle après du Laos et de la famille du coup qu'il a rencontré une fois, il a pu y aller. Il me dit « Je m'entends bien avec eux, j'y suis allée qu'une fois, mais on va peut-être y retourner. En fait, je me sens plus là-bas, chez moi là-bas, que ici. Parce que les gens, ils sont pas comme ici. C'est pas la même mentalité, tout ça. C'est totalement différent. Je sais pas. Ils sont calmes, tranquilles. » Et dans cette petite vignette là que je vous présente, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on voit comment le « qui suis-je » adolescent, donc qui est imprégné un peu par les contrastes, les contraires, les hésitations dans la présentation de soi, retentit quand même avec des mouvements de désir et de culpabilité à se réclamer, s'approprier ou s'identifier à cette valence paternelle des origines, qui renvoie à un ailleurs dont la langue parle accès. Parce que du coup, ce laotien, il n'est pas accessible. Cédric il n'exclut pas d'apprendre à terme cette langue et il exprime vivement le désir de pouvoir la transmettre à ses enfants un jour. Donc finalement, cette langue du pays du père, elle nous semble venir prendre une place d'objet peut-être interdit, en tout cas convoité, mais qui est tenu hors de sa portée, et dont la quête semble peut-être sublimée par celle d'un objet analogue, une autre langue voisine, qui a quand même partie liée à la famille, qui est le japonais.
Une langue tierce. Et donc la problématique des langues, de la langue, des langues, est extrêmement importante dans la situation migratoire et est extrêmement significative aussi, nous, ici même, en France, toujours en Bigorre sans doute, donc notre façon aussi d'appréhender le monde, notre rapport aux langues, à la langue. Et peut-être c'est pas vous, je peux le dire ici, tant pis, c'est que le monolinguisme est un phénomène tout à fait bizarre sur la planète. Donc, parler plusieurs langues, parfois va être, cette situation dans laquelle sont les enfants à devoir, parce que familialement ils ont une première langue et qu'à l'école ils ont une seconde, à attribuer à ce phénomène de présence d'une langue première dans la famille, attribuer à ce phénomène donc la cause des difficultés scolaires, les difficultés adaptatives, les difficultés, etc. Et à l'heure, c'est souvent on attribue au bilinguisme des problèmes donc qui relèvent beaucoup plus des questions de relations, hein, de construction subjective, pas la question donc du rapport aux langues, si ce rapport aux langues justement traduit, si j'ose dire, d'autres conflits ou d'autres tensions. Alors, tout à l'heure, Stéphanie parlait de la nécessité donc du jeu pour l'enfant, JEU, tout en disant attention aussi, hein, ne pas prescrire en quelque sorte du jeu tel qu'on peut le souhaiter ou l'attendre en tant que thérapeute, accompagnant donc ses enfants. Parce qu'en effet, il ne faut pas perdre de vue, évidemment, que dans notre rencontre avec ces enfants venus de loin, comme ça, dans cette rencontre, nous ne pouvons pas attendre la même chose que ce que nous attendons de nos enfants
dans la mesure où la notion d'enfant, d'enfance, de parent, de parentalité, etc., tout cela est infiltré, si j'ose dire, culturellement. À savoir que très tôt, donc tout de suite, on internalise un certain nombre de phénomènes propres à notre culture qui nous indiquent comment être enfant, comment être parent, bien sûr, simultanément, et plein de nos considérations ultérieures, par exemple, considérations pédagogiques, considérations médicales, psychologiques, hygiénistes aussi, entre autres, sont en liaison avec les particularités de notre culture. Mais comme la culture, nous aussi, on l'a internalisée, on n'a pas conscience de ces dimensions, de ces traits culturels qui nous caractérisent. Et par exemple, autre exemple, ce qu'est un bébé, c'est-à-dire ce qu'est susceptible de faire un bébé à la naissance. Comment dans les semaines, dans les mois qui suivent la naissance, l'enfant va apprendre telle ou telle capacité, enfin accéder à une capacité d'autonomie, de motrice ou autre, enfin, etc. Tout cela est aussi infiltré de culture. Et les conditions dans lesquelles se font les apprentissages pour un enfant sont aussi prescrites par la culture. Donc les niveaux d'attente et d'exigence des adultes, de manière parfois consciente, on peut dire que tel enfant, ben tiens, il ne marche pas, il est âgé, il ne mange pas, etc. Bon, de manière consciente, mais il y a plein de choses de l'ordre de l'inconscient qui sont au niveau inconscient, qui sont là présents. Hein, le rapport au corps, par exemple, particulier. Les croyances sont toujours associées à nos représentations de l'enfant, de l'enfance. Il est admis ici, par exemple, pour quelques exemples, qu'une mère et son enfant soient séparés, l'enfant soit séparé de sa mère, pardon, et confié à une étrangère, même si c'est une professionnelle, dès l'âge de 3 mois. On ne va pas dormir avec son enfant, avec son bébé, surtout, même pas avec son enfant. La question du sevrage, ici, elle est rondement menée. Dans notre société, ça va être des événements plus complexes et profonds. Il y a beaucoup de choses qui se font ici, auxquelles on ne réfléchit pas, et qui relèvent donc de cette façon d'être avec l'enfant et qui renvoient à ce qu'on attend de ce que peut faire un enfant et ce qu'il doit faire dans un certain cas. Alors, on a aussi nos propres critères de protection de l'enfant, bien propres critères de protection de l'enfant, qui sont médicaux, etc. Je pense à un cas d'une situation, là, dans une crèche où le personnel, puéricultrice, le médecin, s'inquiète de constater qu'un bébé porte des talismans. Un bébé, évidemment, d'origine, enfin pas évidemment, on peut trouver ailleurs aussi, que le bébé porte sur son corps, donc un bébé d'origine africaine, porte des amulettes sur son corps, et personnel affolé, le médecin interdisant aux parents de mettre une chose pareille sur le corps de l'enfant, faisant fi que l'objet en question a été envoyé par le grand-père pour protéger son petit-fils. Et alors que pendant ce temps, il y a d'autres enfants, autochtones, indigènes, là, qui sucent leur doudou qui traîne par terre, qu'on reprend, etc. Il y en a même qui sucent le pied des parents, on trouve plein de... Bon, mais les talismans, horreur et damnation. Alors, il y a aussi du style, les doudous demandés aux mères
nouvellement venus en France et qui ne savent pas quoi ça sert, qui sont étonnés, qui obtempèrent parce qu'ils voient ce qui se passe, ils observent beaucoup, et pour la volonté de paraître comme les autres, achètent un doudou et le collent à l'enfant pour qu'il arrive à la crèche, à l'école, en bonne et due forme, bien habillé, avec son doudou. Quoi. Donc, même si donc, il n'y a pas eu d'usage du doudou jusque-là. C'est là que je souligne donc les attentes qu'on peut avoir à l'égard des enfants. Et tout à l'heure, Stéphanie parlait du jeu. Hein, le fait aussi, dans les rôles parentaux, hein, père, mère, nous on vise ou on va vers l'interchangeabilité des rôles, à peu près. Et alors que dans nombre de cultures, il y a une complémentarité des rôles. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas, en particulier dans le jeu, qui sont tout à fait inappropriées de demander à un père ou de demander à une mère. Il y a aussi quelque chose aussi à peut-être à noter, j'ai beaucoup d'autres choses prévues, mais à noter, c'est l'importance à imaginer aussi que dans nombre de cultures, de personnes qu'on reçoit, les enfants sont aussi éduqués par le groupe des enfants, par les plus grands. Hein. Et nous, on s'adresse au père, à la mère. Et en fait, on s'adresse au père, à la mère, on ne sait pas trop finalement parce qu'on applique cette même règle, alors qu'en fait, il peut y avoir d'autres personnages dans le groupe familial, dans le système de parenté, qui ont des responsabilités à l'égard de l'enfant. Hein. Comme la situation où on s'adresse au moment de au père. Qui est opéré donc administrativement père de l'enfant, et finalement c'est le frère de la mère qui a autorité sur l'enfant. On a affaire à une société matrilinéaire. Mais donc il y a toute une immense évidemment diversité d'attitudes, mais surtout alors dans toutes ces situations de diversité. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir à l'esprit la diversité. Parce qu'on ne peut pas connaître toutes les diversités. Mais être très précautionneux, d'abord, souvent s'interroger sur sa propre tendance. Réfléchir à ce que l'on a, à ses propres souhaits, à ses propres désirs, qui sont peut-être que les siens propres et uniques. Hein. Et en même temps, la nécessité d'entendre et d'écouter l'autre. Ça, c'est ce qui me semble absolument fondamental, c'est laisser la parole à l'autre. Par exemple, dans cet exemple de ce médecin, c'est l'agricultrice qui exige que la mère enlève le talisman du corps d'enfant. D'une part, il y avait un grand-père bienveillant ou lointain qui s'était inquiété de son petit-fils. Que les talismans, pour les parents, ils sont efficaces, hein, ils protègent l'enfant, une fonction de protection. Des questions de normes, de propreté, donc notre rapport au propre et au sale, du bien et du mal aussi sous-jacent. Hein. Eh bien, on évacue quelque chose sans que ça puisse être l'occasion de solliciter la parole de la mère, du père, de l'enfant. Et je pense que c'est là les risques dans lesquels on chavire, trop souvent, c'est dans ces attributions que l'on a, parce qu'on ne donne pas assez la parole à l'interlocuteur, à la personne, le père, à la mère, enfin, voilà. Et qu'on a nos propres fonctionnements, nos a priori sur ce qu'il est et sur ce qu'il doit faire. Et tout le temps, dans toutes ces situations, même si on sait quelque chose de la culture de l'autre, eh bien, cette culture, ce que l'on sait sur la culture de l'autre, on l'a appris par des lectures, grâce à des anthropologues, etc., etc. Mais c'est une culture que je qualifierais de standard. C'est la culture vécue par le sujet n'a pas la même teneur que la culture annoncée par l'anthropologie.
Et ce qui fait que ce qui importe surtout, c'est non pas de connaître la culture de l'autre, mais ce que l'autre a à vous dire de sa propre culture. Et du coup, vous pouvez aussi avancer beaucoup plus aisément de cette manière-là. D'une part, c'est l'idée du facteur dont je parle au départ, la reconnaissance, la capacité d'écoute des représentations culturelles que l'autre a à transmettre. Et c'est donc la reconnaissance de l'autre dans ses particularités, dans son histoire, et donc la possibilité là d'établir une communication. Communication étymologiquement signifie partager, hein, donc un moment où quelque chose peut être partagé à propos de l'enfant, entre autres. Voilà. Alors c'est important parce que il y a toujours aussi ce souci, puisqu'on est des professionnels, puisqu'on intervient auprès de personnes en difficulté et fragiles, eh bien d'adopter une posture de ceux qui savent et ceux qui indiquent ce qu'il faut faire. Donc, toujours faire très attention de redonner aux parents, j'allais dire, leur dignité, mais aussi leur place tout le temps, hein, pour qu'ils puissent, à leur tour, donc, intervenir et être légitimés dans leur place de parents. Alors, oui, un point très important, c'est le fait que finalement, c'est dans les... Vous devez le prouver pour un nombre d'entre vous. C'est lorsque une personne, enfin des personnes appartenant, lorsque nous rencontrons des personnes porteurs d'une autre culture, que nous pouvons éventuellement prendre conscience d'une autre culture. Alors, éventuellement, parce qu'on peut avoir toutes sortes de mécanismes de défense pour expliquer l'attitude de l'autre, etc., ou s'attendre à ce que l'autre évolue avec quelque chose d'enfin civilisé. Mais la prise de conscience de sa culture se fait dans le contact de culture, dans la rencontre de l'autre porteur d'une autre culture. Voilà. Mais cela peut aussi éveiller, alors que Freud parle des narcissismes des petites différences, peut éveiller ce narcissisme des petites différences, et on peut s'arc-bouter aussi face à ces petites différences, s'arc-bouter comme en interprétant les petites différences de l'autre comme une critique de sa propre façon de faire. Alors, donc c'est bien sûr, on est impliqué dans tout cela, en dépit de savoir professionnel, de savoir-faire professionnel, de connaissances intellectuelles, etc. Les choses sont difficiles à vivre dans les situations de contact de culture. L'interculturalité ne se vit pas spontanément. Il faut y réfléchir, il faut s'y arrêter. Et parfois, il faut étudier ça beaucoup plus près pour avancer. Et donc, je pense qu'il y aura peut-être d'autres moments de contact avec le laboratoire de Toulouse pour d'autres développements. Je vous remercie.